Il est 16h48, chaque jour un expert de marché nous accompagne, nous rejoint en plateau. Aujourd'hui c'est Valentine Hénouz, responsable de la stratégie taux d'Amundi Institute. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Le marché jusqu'ici anticipait encore au moins une hausse de taux de la Fed d'ici la fin de l'année. C'était bien écrit,
exactement,
bien anticipé par les marchés. Vous, vous n'y croyez pas, vous dites bullshit. Vous foudroyez cette idée que le prochain mouvement de la Fed serait une hausse de taux. Enfin, avec Kevin Warsh quand même, on peut s'attendre à ce que la Fed soit plus encline à lutter contre l'inflation. Il a d'ailleurs beaucoup insisté là-dessus. Il va lutter contre l'inflation, il l'a dit la semaine dernière.
Ah, le message a été très clair et très bien accueilli par les marchés. Kevin Warsh fait de la lutte contre l'inflation sa priorité, avec une volonté de ramener l'inflation à 2%. Il a rassurer les investisseurs sur le fait que la banque centrale, la Fed, restait indépendante, parce que c'était un peu pour les investisseurs, c'était un peu l'homme des Jérôme Powell, donc il y avait cette inquiétude, mais en parallèle il n'est quand même pas avancé sur quelle va être la prochaine action de la politique monétaire, et plus largement il a quand même envie que la Fed réduise la forward guidance, c'est-à-dire donne moins d'indications sur la trajectoire prospective des politiques monétaires. Donc oui, rassurer les marché, mais il n'a donné aucune indication sur quelle était sa conviction sur le prochain mouvement de la Fed.
Julien.
Oui, il y a quand même quelque chose qui mérite vos lumières, si je puis me permettre. On a quand même une inflation, alors sur le papier, aux États-Unis qui dépasse les 4%. On est quand même. Le mandat d'une banque centrale, ça reste quand même situé autour de 2%, ou légèrement au-dessus ou légèrement en dessous, ça dépend, mais là quand même.
L'inflation est quand même largement au-dessus de la cible, c'est indéniable. L'économie américaine aujourd'hui fait face à un triple choc. Un choc sur les droits de douane. Si on regarde par exemple le prix du café, plus 17, le prix du bœuf, plus 15%. C'est franchement pas une plaisanterie pour les ménages américains. Cette hausse des droits de douane, elle a un vrai impact sur leur coût de vie. Et donc, on a ce triple choc, droits de douane, prix du pétrole, et cycle d'investissement. Mais si on regarde cet impact des droits de douane ou ce choc sur le prix du pétrole, c'est un choc qui est derrière nous. Et on devrait donc voir se dessiner 2026, sur le deuxième semestre, et 2027, des pressions des inflationnistes. En particulier, si on regarde sur l'inflation sur le prix des biens, elle reste relativement faible. On est sur une économie en K. 50% de la consommation est faite par les 10% des ménages les plus riches. Et qu'est-ce qui consomme les ménages les plus riches ? Pas plus de biens, plus de biens. Non, ils consomment un peu plus de services. Donc on voit que sur l'inflation sur les biens, ça reste quand même toujours autour de 1,1%. Il n'y a pas de sujet. Donc, pour moi, le vrai risque sur ce qui fait vraiment la différence avec l'Europe, c'est ce cycle de dépenses en investissement qui pourrait changer la donne pour l'inflation américaine. Parce qu'il faut quand même l'avouer, c'est un cycle d'investissement qui est monstrueux. L'année prochaine, on parle de 1000 milliards, c'est 3% du PIB. On voit quand même se dessiner des hausses de prix, des pressions à la hausse sur le prix de l'électricité, sur le prix des semi-conducteurs, sur beaucoup de matières premières qui servent à la transition énergétique. Mais c'est des hausses de prix sur certains segments, c'est pas une hausse de prix généralisée sur l'inflation américaine. Pour moi, ce qui devrait quand même être plus marquant sur les trimestres à venir, c'est le fait que ce choc sur le prix du pétrole, il est derrière nous. On a le prix du Brent, on regarde aujourd'hui, c'est quand même revenu autour de 72 $, et que ce choc sur les droits de douane est aussi derrière nous. Donc pour moi, ce qui devrait quand même marquer sur les prochains trimestres, c'est des pressions des inflationnistes, c'est une hausse moins forte de l'inflation, des pressions des inflationnistes sur le deuxième semestre de 2026 et 2027.
Cela dit, il y a les deux autres facteurs que la Fed garde sous son scope. Il y a évidemment le marché de l'emploi. Alors c'est vrai que il y a un peu d'arbitrage, surtout avec au vu des dernières données qui ont été publiées sur les NFP. Puis il y a la croissance. La croissance, elle reste forte, elle reste robuste du côté des États-Unis. Est-ce que c'est pas de nature à provoquer à terme une hausse de taux?
On est d'accord, on a une croissance et contrairement à l'Europe, on a des surprises négatives sur la croissance. Aux États-Unis, ça a surpris positivement. Attention, c'est une croissance qui, pour moi, reste assez fragile. Il y a un niveau de cyclicalité aujourd'hui sur l'économie américaine qui est très forte.
On a l'ISM des services aujourd'hui, il reste à plus de 54. Il fléchit légèrement, mais on est toujours à plus de 54 au mois de juin sur l'ISM service. Ça tient.
Ça tient.
Moins après, moins.
Ça tient, mais, ça tient, mais c'est toujours vraiment, pour moi, une croissance qui est tenue par l'IA. Et il y a quand même des indicateurs. Si on regarde les revenus réels des ménages américain, la croissance, elle est en territoire négatif. Aujourd'hui, la croissance, l'inflation, est supérieur à la croissance sur les salaires. Donc les, et en général, quand on est dans cette configuration-là, c'est pas une configuration où la croissance est très forte. Et les conditions de financement, certes, sont ultra accommodantes pour cette partie de l'économie américaine qui est portée par l'IA. On voit les IPO, on voit ces toutes ces entreprises qui émettent énormément sur les marchés financiers. Ces entreprises-là, toutes les grandes boîtes de la tech n'ont pas de sujet, mais les conditions de financement pour cette autre partie de l'économie américaine, qui sont les ménages qui ont des revenus moins élevés, qui sont les petites entreprises, qui est l'immobilier résidentiel, les conditions de financement sont beaucoup plus, pour moi, restrictives aujourd'hui. L'immobilier résidentiel, on a la vente de biens existants aujourd'hui aux États-Unis qui est sur les mêmes niveaux que 2008. Les revenus réels des ménages sur des niveaux négatifs. Et les conditions de financement pour les petites entreprises ne sont pas si accommodantes que ça. Donc oui, une croissance à 2%, mais une croissance aujourd'hui qui est vraiment, pour moi, dans les mains des investisseurs, tenue par l'IA et avec un niveau de cyclicalité qui est quand même important. Et ce cycle d'investissement, il n'est pas là pour répondre à plus de demandes. Il est là pour répondre à une rupture technologique de fond. Donc ça, ce n'est pas un environnement où, en général, bon, quand on a beaucoup de capex, le cycle classique, bah, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements, c'est qu'il y a un taux très élevé des capacités d'utilisation. Donc ça, c'est un environnement où il y a de l'inflation, forte demande, etc. Là, non, c'est un cycle d'investissement qui répond à une rupture technologique. Donc c'est quand même, oui, il y a de la croissance, elle est qu'à 2%, hein, malgré ce cycle d'investissement historique, mais c'est quand même, pour moi, une croissance où il y a un niveau, il faut retenir, hein, cyclicalité très élevé.
Mais malgré tout, l'hypothèse d'une hausse de taux n'a pas disparu. Vous n'y croyez plus, mais elle n'a pas disparu. Qu'est-ce qui pourrait, alors même si vous n'y croyez plus à cette hausse de taux, changer la donne pour la Fed et la pousser à les relever, ces taux ?
Eh ben pour moi, c'est si on voit des pressions sur les salaires. Ça, c'est clairement, ça veut dire on est dans un environnement où il y a globalement une demande et une demande, je dirais, sous-jacente, hein, qui est plus forte. Si on revoit à nouveau des pressions sur les salaires, notamment sur les salaires, sur les secteurs des services, les bas salaires, là, ça change pour moi la donne pour la Fed. Ça change la donne aussi pour la Fed si on a des déceptions très fortes sur les gains de productivité, parce que c'est quand même un pari qu'on fait, que l'IA va générer des gains de productivité. Donc ça limite quand même les pressions inflationnistes. Et si bah, on a à nouveau, enfin c'est déjà le cas, mais si on a une politique budgétaire qui soutient encore plus la consommation, là la Fed elle n'aura pas d'autres alternatives que de monter les taux.
Ce qui n'est pas impossible, hein, parce qu'on aura des mid-termes, et peut-être les deux chambres bloqueront-elles Donald Trump, avec ou en tout cas des difficultés à trouver le moindre accord, sauf sur des hausses de dépenses budgétaires. Alors là, c'est le truc qui peut réunir les démocrates et les républicains pour le coup.
Ce qui n'est pas impossible, ce qui ferait que je serais quand même, je devrais quand même reconsidérer ce call, mais pour l'instant, mon call, ce qui n'est pas anticipé par les marchés, c'est que cette Fed va maintenir ses taux inchangés sur ce deuxième trimestre.